Bonjour à vous, chers fidèles auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bienvenue dans ce bulletin. Je suis Nani Talani. Il est 9h à Washington, 15h à Ifon, à Lai et Oyo, au Nigeria. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé aujourd'hui avoir tué 16 miliciens et perdu 3 soldats en 3 jours d'offensive contre un groupe armé actif en Ituri dans le nord-est. Lors de ces combats, les FRDC ont neutralisé ou tué 16 éléments de FPIC et capturé 7 autres dans l'offensive lancée vendredi contre le FPIC, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, qui faisait le bilan des offensives lancées du vendredi à dimanche. Deux localités de leur retranchement sont passées sous contrôle des soldats loyalistes, a-t-il ajouté. Le FPIC est composé principalement des jeunes de la communauté Bira et aurait des revendications politiques du fait que cette communauté ne fait pas partie du gouvernement provincial de l'Ituri. Il veut également récupérer les terres occupées par les Hima dans les territoires d'Irumu, selon les experts du baromètre sécuritaire du Kivu. Au Tchad, le principal candidat de l'opposition, Saleh Kebzabo, a annoncé aujourd'hui qu'il se retirait de la présidentielle prévue en avril. Il accuse le président sortant, le maréchal Idriss Déby Itno, de recourir à la violence pour intimider ses rivaux. Hier, 2 personnes ont été tuées par balle au domicile d'un autre opposant, Yaya Dilo Diérou, lorsque les forces de sécurité ont tenté d'arrêter ce dernier. L'élection présidentielle tchadienne est prévue pour le 11 avril. Au Nigeria, des négociations sont en cours pour obtenir la libération de 317 adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat situé dans l'état de Zamfara dans le nord-ouest. C'est une question sensible qui requiert de la patience et du tact, alors que la vie de centaines de jeunes filles est en jeu, a affirmé à l'AFP un responsable des autorités locales impliquées dans les négociations. En décembre dernier, les autorités de Zamfara avaient déjà négocié la libération de 344 garçons enlevés par des bandits de leur pensionnat dans l'état voisin de Katsina. Le nouvel enlèvement de masse de vendredi est la 4e attaque d'école en moins de 3 mois dans le nord du Nigeria, où des groupes criminels appelés bandits multiplient les vols de bétail à grande échelle et pratiquent les enlèvements contre rançon depuis plus de 10 ans. Il a ravivé le souvenir du rapt des filles du Chibok en 2014, lorsque le groupe djihadiste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes. Plus d'une centaine d'entre elles sont encore portées disparues et personne ne sait combien sont encore en vie. En Afrique du Sud, le plus haut tribunal a déclaré lundi qu'il entendrait une affaire d'outrage contre l'ex-président Jacob Zuma le 25 mars après avoir défié son ordre de témoigner lors d'une audience pour corruption. Zuma, accusé d'avoir permis une grève incontrôlable au cours de son mandat, a défié une ordonnance de la Cour constitutionnelle de témoigner devant un comité chargé d'enquêter sur les allégations de corruption qui pèsent contre lui. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy, au pouvoir de 2007 à 2012, a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il devient le 2e chef d'État condamné sous la 4e République après Jacques Chirac en 2011. Ces 2 co-accusés ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 1 ferme. M. Sarkozy était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2014, par l'entremise de Maître Herzeg, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors roue magistrat, dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt. M. Sarkozy, qui était présent à l'audience, n'ira toutefois pas en prison puisqu'aucun mandat de dépôt n'a été requis et les peines de moins de 2 ans étant systématiquement aménagées en France. Dénonçant une annexion de facto de la Cisjordanie par Israël, 442 parlementaires européens ont appelé aujourd'hui leur pays à profiter de l'arrivée de Joe Biden à Washington pour se mobiliser contre la colonisation des territoires palestiniens occupés. Pour la première fois dans l'histoire, un pape sera en Irak à partir de vendredi pour encourager la fragile minorité chrétienne à tenir bon malgré les conflits et la vie dure et pour tendre spectaculairement la main à l'islam chiite. Le pape François rencontrera la plus haute autorité religieuse d'une partie du monde chiite, le grand Ayatollah Ali Sistani à Najaf, au sud de Bagdad. En sport, en Espagne, la police régionale catalane a annoncé lundi avoir procédé à plusieurs arrestations après ces